Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
L'Alliance des États du Sahel, organisation qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, envisage créer à terme sa propre monnaie qui sera une alternative au franc CFA. Le président de la junte nigérienne, le général Abdourahmane Tchiani, l'a évoqué dans une interview il y a quelque temps. Est-ce possible cette création de la monnaie de ces trois pays du Sahel? Quelles sont les étapes à suivre? Quels sont les avantages et inconvénients de cette option et les conséquences sur l'EMOA et la CEDEAO? Pour nous éclairer, Jean-Claude Comé reçoit dans ce numéro spécial d'Economia le professeur Yao Prao Séraphin, économiste, spécialiste des questions de la monnaie, également enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Boaké. Merci de suivre cet entretien.
Regard sur la gestion économique nationale.
Prao Yao Séraphin, bonjour.
Bonjour Jean-Claude Comé.
Une annonce du président nigérien qui fait partie donc du trio, on peut le dire, des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, donc l'AES. Une annonce récente de ce président indique que bientôt on pourra voir ces trois pays lancer une monnaie. L'Alliance des États peut-il vraiment créer sa propre monnaie? C'est la question qu'on vous pose.
Vous savez, la question de la création monétaire est une question qui relève de la souveraineté des États. Et donc, dès lors qu'un pays a son drapeau, a son armoirie et a une devise, je pense que, à mon humble avis, le pays peut aller vers la création monétaire. Maintenant, est-ce que cette monnaie sera stable? Est-ce qu'elle ne sera pas attaquée? C'est là la question. Donc, fondamentalement, je pense que bon, on devrait quand même s'y attendre, M. Jean-Claude Comé.
Justement, oui. Cette annonce n'est pas fortuite. Hein. Elle s'inscrit dans une annonce récente du retrait de ces trois pays de la CEDEAO, une organisation regroupant une quinzaine de pays. Alors, est-ce que c'est une annonce politique ou c'est une annonce d'une certaine détermination économique, à votre avis?
Je dirais les deux à la fois. Pourquoi? Parce que lorsque M. Jean-Claude Comé, nous craignons la CEDEAO le 28 mai 1975, ça devait être une organisation qui devait nous aider à raffermir l'intégration régionale, l'intégration économique et avoir une monnaie commune, n'est-ce pas? À l'horizon, on devait l'avoir déjà en 2020 où on n'a pas pu remplir les conditions, etc. Or, on a constaté que la CEDEAO, vraiment, depuis un certain nombre d'années où nos pays frères, le Mali, le Burkina Faso, ont connu des coups d'État, à mon humble avis, ça a été mal géré cette affaire des sanctions. À chaque fois, ce qu'on brandit, c'est la sanction. On n'essaie pas de trouver les conditions qui ont conduit ces pays-là à lever des coups d'État. On brandit les sanctions financières, mais quand vous gérez les comptes de ces États et que vous venez encore appuyer effectivement sur l'accélérateur qui les conduit vers l'abîme, vous voulez que ces pays-là fassent quoi? Donc, la première déclaration que ces pays frères la font, ce sont des déclarations politiques de dire que nous faisons partie d'un ensemble qu'on appelle la CEDEAO. Attention, si vous ne dégelez pas, nous pouvons sortir. Et cette volonté-là, ces pays-là l'ont. Attention.
Une chose est donc d'annoncer, mais une autre chose est de manière pratique d'aller donc à cette réalité monétaire. Ces trois pays font partie d'une union monétaire qui est l'UMOA. Alors, d'abord, quelle procédure ces pays doivent mettre en place pour sortir de cette union, pour battre monnaie?
Là, au niveau de la CEDEAO, il y a une procédure. Les pays doivent écrire nommément au secrétariat de la CEDEAO et il y a une année. C'est passé un an, c'est alors que nous allons dire effectivement que ces trois pays ne font plus partie de la CEDEAO. Parce qu'il faut bien comprendre la démarche de nos frères. Et moi, je suis peiné que depuis lors, je ne vois pas de déclaration politique forte tendant à aller vers la décrispation de l'atmosphère. Selon ce qui se trace, c'est une affaire qui est très sérieuse. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont reçu des intellectuels de haut niveau qui ont pris attache avec des pays qui sont à même de les aider dans ce projet-là. Donc ce n'est pas de la blague. Et je pense qu'il n'est même pas de l'intérêt de nous tous si la CEDEAO éclate. Parce que si vous avez bien remarqué, ils ont dit nous sortons d'abord de la communauté économique. Vous voyez? Et comme il y a une année, donc là, c'est l'occasion pour nous. Parce que, M. Jacques Lokomé, si nos frères sortent de la CEDEAO, ce n'est pas une bonne chose pour nous. J'entends les économistes dire, oui, mais vous savez, M. Prao, ces trois pays ne représentent que 12% du PIB et 16% de la population. Mais ne regardez pas la chose comme ça. Ce qui va se passer si nos frères la sortent, il aura une entrave, n'est-ce pas, à la libre circulation des biens et des personnes. Désormais, vous, Jacques Lokomé, pour aller au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, vous aurez besoin d'un visa, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, du coup, l'intensification du commerce international qu'on trouve déjà fait va se trouver affaiblie. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. L'agence Moody's dit déjà que, attention, la sortie de ces trois pays, en tout cas, va créer un choc négatif puissant sur la croissance économique et le commerce. Ça va faire baisser les échanges commerciaux, ça va réduire également aussi les opportunités d'affaires. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut faire tout pour attirer ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Mon pays, la Côte d'Ivoire, qui vient d'organiser cette deuxième CAN, mais nous espérons tirer des fruits parce que l'image de la Côte d'Ivoire qui a été projetée dans 80 pays, c'est quand même fort. Et donc, du coup, une zone qui était partie pour être viable, je parle de la CEDEAO, si ces trois pays sortent, ça va devenir un choc. Donc, on n'a pas intérêt. Maintenant, au niveau de l'UOMA, c'est simple. Le nouvel accord qu'on vient de signer, qui date de 2019, monétaire entre la France et les pays de l'UOMA, dans cet accord, il est écrit, chaque pays peut décider de sa sortie. Il n'y a qu'à informer notre partenaire français, informer les autres, et puis ils sortent. Et donc, le scénario plausible dont j'ai eu écho, c'est qu'il n'y aura pas de négociation avant. Ces pays-là peuvent sortir, et puis bon, négocier maintenant le divorce à l'amiable. C'est-à-dire, je sors, il me reste combien là-bas dans la caisse commune? Parce que ce que vous oubliez, les 8 pays de l'UOMA mettent en commun ce qu'on appelle les réserves de change. Quand la Côte d'Ivoire vend son cacao, quand il vend son café, quand il vend son pétrole à l'extérieur, qu'on a les euros ou les dollars, pour défendre la monnaie, on les met ensemble. Le Mali fait pareil, le Burkina fait pareil, le Sénégal fait pareil. Aujourd'hui où je vous parle, c'est vrai, il faut dire la vérité, le seul pays qui a les réserves excédentaires, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Mais on a dit qu'on devait mutualiser effectivement nos forces. Donc on mettait ensemble, n'est-ce pas? On appelle ça une centralisation des réserves d'échange. Donc le Mali peut certainement peut-être devoir, ou le Burkina ou le Niger devoir, mais nous aussi, n'oubliez pas que nous pouvons aussi devoir ces pays-là. Donc dans un premier temps, c'est ce qui est plausible. C'est-à-dire que ces trois pays sortent sans informer quelqu'un. C'est comme ça que ça se fait dans tous les cas au niveau monétaire. On n'informe personne.
Alors, mais quelles pourraient être les conséquences d'abord pour ces pays-là et surtout pour le reste de la communauté pour parler de la monnaie notamment?
Bon, déjà, vous voyez que nous partageons déjà le CFA avec ces monnaies-là. Bon, il est vrai qu'au niveau de la CEDEAO, je ne pense pas que le problème va se poser fortement par rapport aux autres pays, je veux dire. Mais au niveau des pays comme nous, les 8 pays, c'est dangereux. Vous savez, une petite zone comme eux, moi, les trois pays vont avoir leur monnaie. Bon, demain, je ne sais pas ce qui peut advenir avec les perspectives actuelles. Aujourd'hui, nous disons que bon, le Mali ne pèse pas, le Burkina ne pèse pas. Attention, pour avoir une monnaie, ils ne sont pas obligés, ces pays-là, d'adosser leur monnaie à une monnaie forte comme l'euro. Non, ils peuvent, dans un premier temps, avoir une monnaie très faible. D'ailleurs, c'est ce qui est souhaité pour les petits pays comme nous. Et puis, quand ils vont sortir, déjà, comme ils ont leur monnaie, quand vous allez partir de la Côte d'Ivoire vers le Burkina Faso, vous devez passer par une autre monnaie qu'on appelle l'euro ou le dollar avant de faire la conversion. C'est-à-dire, vous quittez Pogo, vous partez chez nos frères burkinabés, c'est comme si vous alliez sur une autre planète. Vous voyez, tout cela va décourager le commerce. Alors que nous, en Côte d'Ivoire, nous serons perdants. L'année dernière, nous avons dégagé un surplus commercial d'à peu près 2,8 milliards de francs CFA avec le Burkina. Avec le Mali, c'était 1,4 milliard. Donc, vous voyez, nous allons perdre. Vous savez, M. Jacques Lokomé, la viande que nous consommons, l'oignon que nous consommons, l'oignon vient du Niger et la viande vient du Burkina et du Mali. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour nous. C'est vrai, vous allez me dire, mais M. Prao, eux aussi, ils ont des problèmes, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aucun ressortissant de ces pays-là ne souhaite cette solution extrême.
Cette future monnaie, on parle déjà en termes de nom de la monnaie Sahel, cela reste à confirmer. Mais la question de la viabilité de cette future monnaie, si elle était créée par ces trois États, et quelles sont les chances d'une telle monnaie?
Bon, en général, nous, spécialistes des questions de monnaie, quand on veut exhorter un pays à aller vers une telle aventure, il y a, à mon humble avis, quatre conditions qu'il faille respecter. La première condition, c'est la condition économique. Il faut que ces pays-là enregistrent des taux de croissance positifs. Bon, c'est l'impression que j'ai en regardant quand même les chiffres. Au Mali, par exemple, en 2023, le taux de croissance, il est de 5,1%. 5,3% projeté en 2024. Vous prenez le Burkina Faso, en 2023, c'est 4,3% et projeté pour 2024 à 4,8%. Quand vous prenez le Niger également, en 2023, j'ai mis un taux de croissance de 6,9%. Donc bon, côté économique, je pense que bon, si on veut s'en tenir au taux de croissance, c'est vrai que vous avez mis le taux de croissance, il peut être conjoncturel, c'est vrai. Un pays comme le Niger a une structure économique très peu diversifiée. Et donc, le Niger ne compte essentiellement que sur son uranium, vous voyez. Et puis, bon, l'agriculture.
Le pétrole là, qui est annoncé aussi.
Bon, le pétrole, mais cela va rentrer en exploitation en 2024 et même 2025 pour atteindre son pic. Mais on ne va pas vers la monnaie en frontant une fois qu'ils sont sur son pétrole. Non, je veux dire que ces économies ne sont pas diversifiées. Tu prends le Mali, bon, le Mali et le Burkina, mais le Niger n'est pas diversifié. Mais vous savez, comme j'ai toujours dit, dans tous les cas, quand on crée une zone monétaire, c'est la volonté politique qui prime. Je dis bien la volonté politique. Donc, la première condition, je pense, le Mali peut s'arranger. Et je vous le dis, il y a des pays que vous connaissez. Vous savez bien que le Mali, aujourd'hui, est en très bon terme avec la Russie. Et la Russie peut venir en aide à ce pays-là, idem pour le Burkina Faso. Et la connexion est faite. Donc, il peut avoir, je vous dis qu'il peut avoir des soutiens forts de la Chine, de la Corée du Nord, etc. Donc, ce côté économique, on peut régler ça. Maintenant, il y a une deuxième condition, c'est la condition technique. La condition technique, c'est de dire, mais d'abord, c'est quel régime que nous allons arrêter. Et ce que je sais, c'est qu'il y a des experts des trois pays qui travaillent là-dessus actuellement. Et quelle est la politique monétaire? Comment on va la mener? Est-ce qu'il y aura des spécificités propres à chaque pays comme on le fait dans l'UEMO actuellement? Qui va gérer la banque centrale de ces trois pays? Ou bien comment ça va se passer? Donc, techniquement, ils sont là-dessus. Et puis après, cette monnaie, elle sera fabriquée où? Comment faire pour sécuriser la monnaie? Les monnaies peu falsifiables. Troisième condition, c'est la condition sécuritaire. La quatrième condition, c'est l'adhésion des populations. Vous ne pouvez pas créer une monnaie commune si la population n'est pas d'accord. Mais sur ce point, je pense que ces trois puissances ont réussi avec ce patriotisme autour du régime de leur président. Les populations adhèrent à ce projet-là.
Mais la question aussi de la relation avec les autres pays qui, si d'aventure cette monnaie était créée, qui vont rester dans l'UEMO, quels pourraient être les risques en termes de reconnaissance justement dans les échanges?
Non, mais cela va compliquer les échanges un peu quand même. Dans tous les cas, comme nous sommes obligés, nous ne sommes pas indépendants, par exemple, vous savez, en viande, par exemple. On dépend beaucoup du Burkina, du Mali. Ben, il faut bien qu'on continue de manger la viande. Donc, nous allons forcément importer. Et c'est ce que je vous dis. Cela va augmenter ce qu'on appelle les coûts de transaction. C'est-à-dire que là où je ne paierai du tout à la frontière, mais là, je serai obligé de vendre du franc CFA pour acheter le dollar et utiliser le dollar ou l'euro pour aller maintenant acheter cette fameuse monnaie si d'aventure elle est créée. Cela va vraiment augmenter les coûts de production, les coûts de transport. Et si les coûts de transport augmentent, les droits de douane également vont être revus à la hausse. Donc cela va créer franchement, à très court terme, une hausse des prix en Côte d'Ivoire. Si cela advenait, les études françaises ont montré que cela va créer un choc à très court terme sur notre balance des paiements. Donc au niveau économique, au niveau de l'économie, le taux de croissance de l'UEMO déjà, comme dit l'agence Moody's, cela va prendre un coup. Ça c'est clair. Pourquoi? Parce que il y aura baisse du commerce international, et comme le commerce international est tellement important de la croissance, donc baisse de la croissance, et surtout ça va donner une mauvaise image, n'est-ce pas, à cette zone-là qui était comptée quand même comme une zone très reluisante pour les investisseurs. Et là, comme dit Moody's, cela va décourager les opportunités d'affaires et d'investissement dans la zone. Et comme nous sommes, il y a eu cette interpénétration au niveau de nos frontières et de nos pays, vous le savez, Burkina, il y a 3,5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, et 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Bon, vous voyez, et donc ceux qui sont ici, ils rapatrient l'argent là-bas, et le commerce de là-bas vers la Côte d'Ivoire, etc. Quand vous prenez par exemple le Burkina, au niveau de ces exportations, les 5 principales destinations sont bien en zone CEDEAO. Côte d'Ivoire 40%, 17% pour le Mali, Ghana 11%, Niger 7% et Togo 7%. Quand vous prenez le Niger par exemple, 80% des biens de consommation vient de l'extérieur en passant par le port de Lomé et de Cotonou. Vous voyez, donc si ces pays-là ne peuvent plus utiliser les ports de Lomé et de Cotonou en représailles, parce que c'est ce qui va arriver d'ailleurs, ils peuvent passer par un autre pays.
C'est dire que pour vous, comment considérez-vous cette annonce? Est-ce une aventure monétaire ou c'est des choses qui doivent être analysées avec sérieux pour éviter ce choc que vous annoncez?
Mon souhait, surtout vous savez moi mon combat, c'est que le Mali, le Niger et le Burkina restent dans l'UEMO et que nous nous battions ensemble pour que notre monnaie soit forte et moderne. On peut aller vers un panier de monnaie parce qu'on a gagné un premier combat où on n'est plus obligé, nous ne sommes plus obligés de déposer nos réserves d'échange au trésor français, c'est déjà un combat. Le deuxième combat, c'est sur la flexibilité du régime monétaire. Donc nous nous étions quand même un peu contents, quand même un peu ravis de ce changement. C'est vrai que très graduel quand même, il faut le dire, mais que nous sommes en train de gagner. Donc moi, je suis partisan que ces frères restent effectivement dans l'UEMO, qu'on gagne ce combat-là pour notre souveraineté monétaire réelle.
Professeur Yao Prao Séraphin, je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, Jacques Lukoumé.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.